Henri Quinson, bonjour.
Bonjour.
À peu près il y a une vingtaine d'années, vous exercez un métier qui aujourd'hui est assez méprisé, entre guillemets. C'était celui de trader à New York, à Wall Street. Et vous étiez donc également chrétien de par votre éducation. Et à l'âge de 20 ans, vous aviez redécouvert la prière en tant qu'adulte. Donc vous aviez un début de vie spirituelle. Et en lisant donc le livre que vous avez publié, Moine des Cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille, cette vie spirituelle va tout à coup prendre toute la place en 3 temps dans la même année. Donc ça commence par une expérience un certain dimanche de janvier 89 où tout à coup vous vivez une sorte d'expérience un peu mystique. Ensuite le 16 octobre vous vous réveillez un matin et là vous vous dites il faut que je démissionne de mon poste de trader. Alors qu'on vous proposait une offre très alléchante, je pense, en Angleterre. Et suite à ça, vous avez une vision, donc quelques jours plus tard, le 24 octobre, où là, vous vous voyez à Marseille en train d'enseigner à des jeunes en difficulté. Vous vous appelez Henri Quinson. Henri Quinson, c'est celui de Dieu ?
Oui, qui entend Quinson, n'entend que la voix de Dieu. Et c'est vrai que finalement, ce récit autobiographique « Moine des Cités » de Wall Street au quartier nord de Marseille, ça frappe l'imagination des gens. Bon, les traders, je ne sais pas s'ils sont méprisés, mais vous avez raison, pour la plupart des gens, c'est sans doute le sentiment qu'ils ont. Mais il se trouve que les salles des marchés et les traders, c'est finalement un univers dont tout le monde parle, parce que ça nous affecte tous de manière directe ou indirecte. Et en fait, c'est un lieu où personne n'a habité. Le monastère que je vais rejoindre après, c'est un peu la même chose. C'est un lieu dont les gens parlent. Beaucoup de gens vont voir des monastères, mais très peu ont vécu la vie monastique de l'intérieur. Et de la même manière, quand après je termine dans une cité HLM, celle dont vous parliez dans ce rêve où je me vois à Marseille, les cités HLM, on en parle toujours quand il y a des voitures qui brûlent, comme par exemple en novembre 2005. Et en même temps, c'est des lieux où la plupart des gens n'ont jamais été habités et connaissent très mal. Donc mon histoire, c'est finalement l'histoire d'habiter 3 lieux dont tout le monde parle, qui font fantasmer les gens et que les gens connaissent très mal. Et dans cette histoire-là, le fin fond de la question, pourquoi être passé d'un lieu à un autre, c'est effectivement cette quête spirituelle. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que ces lieux, on pourrait dire que c'est presque des métaphores de Dieu, puisque Dieu, tout le monde en parle, et en même temps, c'est le grand invisible. Et il laisse simplement des traces dans le visible, et notamment le choix d'un trader qui va tout quitter pour aller habiter dans un premier temps dans un monastère et après dans une cité HLM, ça pose forcément la question. Et donc, il a dû découvrir quelque chose qui est mieux que tous ces bonus et ce salaire mirobolant qui lui était offert. Et c'est ça un peu la question de mon livre. Et cette question, en fait, je ne souhaite pas la traiter théoriquement, mais simplement raconter une histoire. Et donc, au cœur de cette histoire, effectivement, il y a cette expérience spirituelle. Moi, le jeune consommateur occidental qui a tout dans sa vie et qui se dit, mais il me manque quelque chose. Et à l'âge de 20 ans, donc avant même tous les événements que vous avez mentionnés, je fais une expérience de prière. En fait, je dis à Dieu tout simplement, à la suite de Charles de Foucault, ben voilà, si tu existes, manifeste-toi à moi. Et dans cette expérience de prière, Dieu vient. C'était le livre « Lettres du désert » de Carlo Caretto, un Italien qui, assez tard dans sa vie, avait fait le choix de se retirer au désert à la suite de Charles de Foucault. Et dans ce livre, il parlait de la prière, pas de manière théorique, mais il parlait de son expérience de la prière. Et en lisant ce livre, je me suis dit, peut-être que moi-même, je devrais faire cette expérience de la prière. Et cette expérience de la prière, j'étais frustré avant cette expérience de prière. Je fais cette expérience de prière et après, je suis comblé. Je suis dans la joie, je suis dans la paix, les fruits de l'Esprit-Saint dont parle saint Paul dans ses lettres. Et je me dis en bon fils de Descartes, bon, mais peut-être que c'est pas Dieu, peut-être que c'est purement psychologique, c'est peut-être la méthode Coué. J'ai ma petite crise métaphysique, je m'invente un Dieu, il vient, et puis ça y est, ça fait un bon médicament qui n'aura pas besoin d'être remboursé par la sécurité sociale, qui coûte rien. Mais est-ce que pour autant c'est Dieu? Et à partir de là, je me lance dans une quête à caractère religieux, et qui va prendre de plus en plus d'importance jusqu'à déboucher sur cette démission de la banque. Et à travers cette quête, j'achète plusieurs livres sur les différentes religions, chrétiennes, juives, musulmanes, bouddhistes, etc. Et je commence à me faire une opinion et je découvre qu'en fait, l'image que j'avais de Dieu était un Dieu finalement mort, un Dieu assurance-vie, qui est sans doute d'ailleurs l'image que la plupart des gens ont dans leur tête quand on leur dit le mot Dieu. Dieu qui, comme je le dis dans mon livre, vient de Zeus. C'est un Dieu qui n'a pas grand-chose à voir avec le Dieu biblique, le Dieu des évangiles. Et ce Dieu, finalement, pour moi, à l'époque, c'était celui qui avait créé le ciel et la terre. Alors, j'étais allé à l'école de la République et on m'avait expliqué que voilà, on pouvait faire des hypothèses sur l'évolution de la création, mais qu'au début, il y avait peut-être quelque chose comme le Big Bang, enfin bon. Mais on ne m'a jamais expliqué ce qu'il y avait avant le commencement, et pour cause. Et si on était capable de me le dire, il resterait la question, oui, mais pourquoi tout ça? Quel est le sens de tout ça? Quelle est la saveur aussi de toute cette existence? Et donc je découvrais que bon, bah là, la plupart des gens, ils mettent Dieu, parce qu'on ne sait pas répondre à ces questions. Et puis, quand on meurt, pareil, on va mettre Dieu, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Or, moi, la question qui m'occupait, j'étais frustré dans ma vie. Et donc, je me posais la question de cette poétesse américaine, Emily Dickinson, que je cite dans mon livre, c'est « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Moi, je veux être vivant aujourd'hui, tout de suite. Et c'est dans la prière que j'ai pu découvrir que oui, le Dieu que je pouvais rencontrer était un Dieu vivant qui non seulement me comblait moi personnellement, et on pourrait dire que ma démarche était assez égoïste, en tout cas centrée sur moi-même, mais progressivement, je me suis rendu compte que cette vie de prière m'ouvrait sur les autres, je rendais des services auxquels je n'avais pas pensé avant, etc. Et que dans ma quête intellectuelle, j'ai découvert aussi le Dieu des chrétiens, qui me paraissait tout à fait original, puisque les chrétiens disaient que finalement, le fondateur, pourrait-on dire, de leur religion, Jésus, était non seulement un homme, un sage, un prophète, mais était Dieu lui-même, ce qui est une énormité, d'une arrogance absolument incroyable. Et en même temps, c'était le Dieu le plus proche, puisqu'il venait habiter parmi nous. En même temps, le Dieu le moins menaçant, celui qui s'imposait le moins, puisqu'il acceptait d'être crucifié à la demande des autorités religieuses de sa propre tradition et avec la complicité de la grande puissance de l'époque, l'Empire romain, et avec l'accord de la majorité du peuple. Et donc Dieu sortait de l'histoire, condamné injustement, crucifié, sans chercher à se défendre. Et donc c'était un Dieu à la fois incroyablement proche. Et cette super présence, proximité, était absolument pas de l'ordre de l'imposition, d'un triomphe par les armes, de quelque chose de contraint.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous citez, vous dites au lieu d'un dieu des armées en trois mots, il s'agit là plus donc de Jésus, un dieu des armées en un seul mot.
Exactement. Moi, j'étais révolté contre ce dieu qui serait un dieu haut-parleur, qui parle de haut, qui parle du ciel, et qui finalement dirait aux créatures que, peut-être en leur envoyant un livre, en leur disant, ben voilà, vous n'avez qu'à suivre ce manuel de savoir-vivre, et tout ira bien. Moi, ce qui me scandalisait, c'était la souffrance dans le monde. J'étais, moi, quelqu'un qui avait eu beaucoup de chance dans la vie, puisque je venais d'une famille unie, j'avais manqué de rien, j'étais citoyen français, citoyen des États-Unis, je n'avais jamais raté une année d'études, certes parce que je travaillais, mais aussi parce que j'étais plutôt doué. Et donc, je ne trouvais pas très juste qu'il y en ait qui meurent de faim sans qu'il y ait des raisons objectives à ça. Et donc, ma question, c'était, mais quel est ce Dieu dont on me parle, qui a l'air d'être un tyran, qui crée tout ça et qui finalement n'en a plus rien à faire après? Et le Dieu des chrétiens ne répond pas à toutes ces questions, mais c'est un Dieu très différent qui, en tout cas, vient partager notre souffrance, partager notre existence humaine et qui nous invite donc à vivre l'amour du don de soi. Et donc, la vie prenait un sens, y compris dans son échec apparent, celui de la mort, de la maladie, de la souffrance. Et il s'agissait de faire triompher un royaume de fraternité qui ne s'impose pas aux autres et qui vient du dedans dans une transformation personnelle. C'était ça ma découverte majeure qui, effectivement, aboutit à un moment donné à me poser la question d'une vocation particulière. Et donc, au bout d'un an, après avoir fait cette découverte, à l'âge de 20 ans, je me pose la question pour la première fois de ma vie, mais peut-être suis-je appelé à, peut-être, par exemple, ne pas me marier. Il y a des moines bouddhistes qui font ça, des moines chrétiens qui font ça, des prêtres, des religieux, des religieuses, ou alors changer de carrière professionnelle. Mon père lui-même était banquier, mais tout le monde n'est pas forcément conduit à refaire exactement ce que font ses parents.
Votre frère aîné était, lui, prêtre, par contre, déjà, c'est ça?
Oui, mon frère Paul est entré au séminaire après avoir fait une expertise comptable. Cette entrée au séminaire m'avait posé question aussi, en me disant, j'avais l'impression que la foudre était tombée juste à côté de moi, ça me paraissait curieux. Donc là, il y avait une question pour moi, et puis mes deux autres frères étaient plutôt dans la catégorie des bouffeurs de curés, et donc j'avais, comment dire, une approche un peu équilibrée par mon milieu familial immédiat sur cette question de Dieu. Il y avait débat sur l'existence de Dieu et sur le caractère bienfaisant ou malfaisant de l'Église, et donc toutes ces questions, je les portais en moi aussi à travers mon milieu familial, et puis mes amis. J'étais dans un environnement où il était très difficile de parler de ses expériences spirituelles. Et pendant très longtemps, j'ai cheminé sans être capable de parler. Je le dis au début de mon livre, je n'arrivais même pas à parler de ces questions de vocation à un prêtre. Mais il se trouve qu'à un moment, j'ai trouvé la force de présenter ma démission à la banque en 1989.
Et comme vous le disiez très bien, j'ai eu cette vision où je me retrouvais à Marseille, une ville que je ne connaissais pas, où je n'étais jamais allé, et que je ne savais d'ailleurs pas écrire correctement. Je l'écrivais avec un S à la fin, comme on l'écrit en américain, et où je me retrouvais entouré d'enfants visiblement venus du sud de la Méditerranée et que j'aidais pour l'école. Mais je me suis dit, je ne connais personne à Marseille, etc. Et donc, je n'ai pas cherché à tout prix à vérifier cette vision. Et donc, je suis entré au monastère de l'Abbaye de Tamier en 1989.
Alors oui, effectivement, entre cette vision où vous voyez à Marseille enseigner et la concrétisation, qui est aussi l'histoire de ce livre, il y a quelques années, je dirais, d'ajustement, peut-être un peu comme Jonas dans l'Ancien Testament. Effectivement, vous êtes passé par 5 années de vie monastique dans la communauté de Taimé, c'est ça ? Vous faites également plusieurs rencontres qui, je pense, sont importantes pour vous. On va en citer 3, Guy Gilbert, par exemple, Enzo Bianchi, qui est une communauté qui s'appelle Bose, et également l'abbé Pierre. Et puis, au long de ces années, vous avez également une réflexion et tout un cheminement intérieur sur l'engagement pour suivre au mieux le Christ. Est-ce que ces années ne sont pas des années de réflexion et de précision de votre tâche, ce à quoi vous êtes appelé, justement ? Et est-ce que vous ne passez pas de l'œil du cœur, puisque cette vision, on pourrait dire que c'est une vision nette, précise, tranchante, à une forme raisonnée, peut-être, pour vivre pleinement cette vision ?
Oui, c'est une question bien posée, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une relation dans la tradition biblique et je pense dans la spiritualité vraie, entre à la fois le désir profond du cœur qui peut se traduire par des visions, c'est-à-dire une projection de l'imagination, qui finalement, comme vous le disiez, a quelque chose de très tranchant, de très direct, un peu comme le cinéma. L'image, c'est quelque chose qui parle tout de suite. L'homme, dans son évolution, a commencé à dessiner avant d'écrire, qui est déjà une étape de réflexion et de formalisation de la pensée assez élaborée. Et cette vision, finalement, elle est arrivée peut-être trop tôt, trop vite, et je ne pouvais pas la suivre. Et il a fallu tout un processus de maturation, dans lequel, je pense, il y a une maturation spirituelle, c'est-à-dire l'apprentissage dans un monastère traditionnel comme l'abbaye de Tamier, eh bien, d'un certain rythme de prière, la lectio divina, c'est-à-dire la lecture priée des Écritures tous les jours, la rencontre d'un certain nombre de grandes figures que vous avez mentionnées, et aussi, sur le plan intellectuel, c'est très vrai, une certaine analyse et pour essayer de voir finalement la pertinence éventuellement de cet appel profond, c'est-à-dire en particulier dans mon livre, l'importance d'abord de reconnaître les intuitions justes de la vie monastique. Alors, moine, ça vient d'un mot grec monos qui veut dire un, donc c'est des communautés de célibataires, et puis c'est aussi des communautés de célibataires dans des lieux. On parle des pères du désert qui sont les pères fondateurs de la vie monastique. Alors, quels sont les déserts aujourd'hui ? Est-ce qu'il s'agit simplement de communautés qui sont dans des zones rurales, c'est le cas de l'abbaye de Tamier et de la plupart des monastères en France ? Est-ce qu'il n'est pas intéressant de reprendre la notion de désert en voyant que les pères du désert d'Égypte, c'était des gens qui avaient décidé d'habiter dans les banlieues de l'Empire romain. L'Empire romain était devenu chrétien avec l'empereur Constantin. Et en fait, les premières grandes époques de la vie monastique, c'était ces pères du désert qui avait décidé que l'Église officielle, devenue religion d'État, s'acoquinait un petit peu trop avec les riches et les puissants. C'était la fin de l'époque des martyrs, et qu'en fait, le vrai martyr, le vrai témoignage, martyr ça veut dire témoin en grec, le vrai martyr, c'était celui qui, par son choix de vie un peu radical, et en l'occurrence un peu excentré, centré sur le Christ, mais peut-être excentré par rapport aux avantages qu'on pouvait tirer d'être dans une société chrétienne, eh bien, se situait dans les banlieues de l'Empire, ces lieux arides, difficiles, réputés dangereux qu'étaient les déserts. Eh bien, aujourd'hui, les banlieues, là où les gens sont mis au banc, ces quartiers des périphéries urbaines, est-ce que c'est pas intéressant d'y avoir des communautés de prière, de travail et d'accueil ? C'était un peu ça, finalement, la maturation intellectuelle qui s'opérait en moi, notamment, et j'en parle beaucoup dans mon livre, à partir des années 90, quand le terrorisme fait son apparition en Algérie et puis progressivement en France.
Effectivement, vous avez un intérêt et en même temps beaucoup d'inquiétude par rapport à la série d'attentats qui a commencé donc à Paris, dans le métro, et ailleurs en France. Bon, également, ce qui vous intéresse, c'est la situation des moines chrétiens en Algérie. Est-ce que, effectivement, cet intérêt, qui est plus que de l'intérêt, puisque c'est une forme de quoi, d'inquiétude peut-être ?
Certainement une attention qui est de l'ordre de l'engagement, c'est-à-dire que comme la question de la classe ouvrière, de la vie des ouvriers au XIXe siècle, l'Église ne pouvait pas passer à côté, ou alors à ce moment-là, on laisse le Parti communiste, une philosophie athée, s'emparer de la question de la justice sociale. De la même manière, aujourd'hui, il me paraît difficile de passer à côté de la question des migrations, l'arrivée d'un certain nombre de gens qui viennent du sud de la Méditerranée, et puis la question religieuse de l'islam, avec sa composante d'islam traditionnel, mais aussi les débordements qu'on a pu voir sous des formes terroristes, avec éventuellement, pour ce qui est de l'Algérie et d'autres pays, des infiltrations de la sécurité militaire algérienne, du régime lui-même qui joue aussi avec cet épouvantail pour se maintenir au pouvoir. Mais quelles que soient les stratégies mises en œuvre, on voit bien qu'il y a une montée de formes de violence qui sont liées à des questions religieuses. Et donc pour nous, Européens, ça nous replonge dans les guerres de religion, ça nous replonge dans des problématiques qui sont aussi celles de, bon, mais si ces pauvres sont musulmans, on doit rejoindre le pauvre, on doit rejoindre le musulman. C'est quoi la pastorale des migrants, comme on dit dans l'Église catholique, ou est-ce que c'est le dialogue interreligieux, comment on fait pour faire les deux en même temps? Toutes ces questions, c'est des questions énormes parce que c'est des questions très concrètes qui se posent dans nos villes aujourd'hui. À Marseille, par exemple, il y a 200 000 musulmans, pratiquement un quart de la population marseillaise est musulmane. Il y a aussi 80 000 juifs. La France est devenue le troisième pays juif au monde. Donc la France n'est plus un grand pays catholique où on se bat entre laïcards et catholiques. C'est devenu un pays qui a un côté multiculturel, surtout dans ces grandes villes. Et donc il me semblait important de revenir à une réflexion sur la présence de l'Église, et notamment dans sa composante monastique, par rapport à ces nouvelles réalités. Voilà, ça c'était les défis auxquels on était confrontés. Et de fait, cette vision que j'avais eue en 89, qui était intuitive, progressivement, au contact notamment, vous l'avez mentionné, de ce qui se passe en Algérie, notamment de la présence des moines de Tibérine, puisqu'il y a deux frères, Paul et Christophe, qui viennent de l'abbaye de Tamie où je suis et qui vont en Algérie. Et donc, en 93, il y a les groupes islamiques armés qui lancent un ultimatum contre les étrangers en Algérie. Ils ont un mois pour quitter l'Algérie et le monastère de Tamie est visité par un groupe qui, 10 jours avant, a égorgé 12 croates, des travailleurs immigrés chrétiens à 3 km du monastère. Et donc ces questions, vous avez raison de le dire, ce n'était pas simplement des questions intellectuelles, c'était une inquiétude pour la vie de ces frères. J'ai connu 4 des 7 frères qui ont fini par être assassinés le 21 mai 1996. Et cette violence traversait donc la Méditerranée, le détournement d'un Airbus en 1994, les bombes posées par un certain Khaled Kelkal, un Français d'origine algérienne, et donc l'impression qu'il y a des réseaux terroristes et puis des préjugés, des stéréotypes qui sont jetés les uns après les autres, en pâture à travers les grands médias commerciaux, et qui suscitent une méfiance. C'est-à-dire que dès qu'on va rencontrer quelqu'un dans le métro qui physiquement peut laisser croire qu'il vient justement d'Algérie, eh bien, tout de suite va revenir en tête les horreurs de la guerre d'Algérie, le djihad, les croisades, etc. Et donc, il me paraissait très important de créer des réseaux de fraternité qui auraient comme objectif exactement inverse de vivre une vraie communion fraternelle entre êtres humains qui, finalement, sont tous fondamentalement les mêmes. C'est-à-dire, nous sommes tous des métis. Moi, j'ai un frère qui a les yeux bleus, moi, j'ai les yeux marrons. Nous sommes des métis entre différentes tribus européennes. Les Algériens sont fondamentalement des berbères, qui ont été arabisés après, mais 85% des Algériens ont du sang berbère. Et nous sommes donc appelés à vivre ensemble dans nos mêmes immeubles ici en France. Et comment est-ce qu'on va arriver à travers nos différences culturelles, ethniques et religieuses à vivre une fraternité positive et non pas vivre dans la peur en laissant ceux qui pratiquent la violence et notamment la violence à l'égard de civils innocents les laisser définir l'image des uns et des autres. Et c'est ça progressivement qui a pris corps en moi, paradoxalement, à l'ombre d'un mur de clôture à l'abbaye de Tamie. Et je dois beaucoup aux moines de Tibérine qui ont pris ce risque jusqu'à la mort pour 7 d'entre eux de vivre en fraternité avec leurs voisins musulmans, ce qui m'a permis de comprendre qu'il faut faire une différence entre l'islam, qui est un corps de doctrine, certaines pratiques, avec évidemment des différences selon les chiites, les sunnites, le mouvement soufi, etc., différentes écoles juridiques, mais qui a une certaine unité, une certaine représentation de Dieu et de l'homme, et puis les musulmans en chair et en os, qui sont, c'est vrai, musulmans, ils peuvent se définir comme ça, mais qui sont aussi des êtres humains comme moi, donc une expérience concrète de notre humanité commune à vivre ensemble en étant voisins, et puis aussi, sur le plan de la théologie catholique,
dire que voilà, l'Esprit de Dieu est dans le cœur de tout homme, puisque nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et donc, il y a manière de retrouver cet Esprit qui nous est commun et de vivre une aventure donc positive, constructive, qui nous permette de sortir de ces antagonismes pour faire advenir un monde fraternel, puisque nous sommes ensemble sur la planète pour au maximum 100 ou 120 ans pour les plus chanceux d'entre nous, et que plutôt de s'envoyer des obus pour savoir qui va occuper tel ou tel morceau de la planète qui serait, paraît-il, une terre sainte, ou alors pour aller tirer du pétrole dans certains pays que l'on convoite à force aussi d'intervention militaire, eh bien entrer dans des relations au XXIe siècle qui soient un peu plus sages.
Donc une réelle volonté d'apaiser en quelque sorte les relations humaines ?
Oui, c'est ça, sortir de ces logiques de violence et par un témoignage très concret, sans forcément prendre la parole, en tout cas au début, montrer qu'il est possible de travailler ensemble à un monde meilleur.